on va voir le témoignage de quelqu'un qui est allé dans l'enfer de Gaza plusieurs fois. Il s'agit d'Alain, soldat israélien réserviste. Il a été, depuis le 7 octobre 2023, plus d'un an, soldat de réserve. Il est allé de nombreuses fois à Gaza. Et donc, Jonathan, avec vous ce matin, on va recueillir le témoignage d'Alain, notre soldat réserviste de Tsahal.
Bonjour Alain Boker Tov.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, première question tout de suite, j'aimerais savoir dans un premier temps, où étiez-vous le 7 octobre 2023, que faisiez-vous et est-ce que vous avez compris tout de suite l'ampleur de l'événement?
Alors, comme la plupart des Israéliens, moi le 7 octobre j'étais à la maison, je dormais un matin, c'était tôt, ça arrivait tôt. On s'est réveillé forcément au bruit des alertes qui nous ont sorti de notre lit. Mais au début, effectivement, on pensait que c'était quelque chose de récurrent. En Israël, on est habitué à des missiles, on se dit le dôme de fer va les arrêter, et ça va s'arrêter là. Donc on est reparti se coucher juste après. Mais on n'arrivait pas, moi personnellement, j'arrivais pas à m'endormir. Donc après avoir traîné sur mon téléphone, j'ai commencé à voir les premières vidéos, et j'ai compris tout de suite. Quand j'ai vu les vidéos des pick-up, avec les terroristes sur les pick-up, j'ai compris immédiatement qu'on était dans un autre monde. Quelque chose de jamais vu encore. Donc, voilà.
Vous avez été appelé tout de suite par les forces israéliennes, par Tsahal?
Alors, pas tout de suite. J'ai été appelé à 11h, exactement, dans environ 11h. Mmh. J'ai reçu le premier message, c'est la guerre, il faut venir. Mais moi, dans ma tête, je me préparais déjà. J'étais certain, quand j'ai vu l'ampleur de ce qui nous attendait, j'ai dit, ils vont appeler tout le monde. C'est pas possible autrement. Donc, moi, dès 11h, j'ai demandé à quelqu'un, un copain à moi de la base, de venir me chercher. Et comme ça, de fil en aiguille, on est parti le plus tôt possible.
Comment se sont déroulées les premières semaines dans la bande de Gaza?
Alors, vous parlez à l'intérieur de la bande de Gaza ou pendant la guerre?
À l'intérieur de la bande de Gaza, les combats.
Alors, il faut savoir que les combats dans la bande de Gaza sont très différents de l'endroit où on est et de la mission qu'on reçoit. Ma première mission à titre personnel, c'était une mission offensive, c'est-à-dire on avait comme responsabilité de prendre le contrôle d'un quartier à l'intérieur de la ville de Gaza. Et c'était une mission particulièrement intense, où on n'avait pas beaucoup de temps pour se préparer en plus. On n'avait pas le meilleur équipement du monde, parce qu'en tant que réserviste, on n'a pas les mêmes équipements que ceux qui sont en service actif. Et donc, ça a été une expérience inédite pour moi, parce que j'avais eu forcément des expériences militaires au cours de mon service actif, mais de cette ampleur-là, de cette intensité-là, non, quelque chose de jamais vu. On est parti la première semaine, la première fois 3 semaines d'affilée, sans rentrer, sans sortir, sans prendre de douche, voilà, sans, vous comprenez, les conditions du terrain étaient difficiles. Et forcément, on entend les tirs, on entend les bombardements, on se fait tirer dessus, on se fait bombarder, et on rentre en fait on fait un switch dans la tête qui nous permet ensuite de pouvoir continuer, parce que si on le fait pas, on n'est pas fait pour rester dans cet enfer, c'est clair.
Il faut être prêt psychologiquement à affronter ce genre d'épreuve. Est-ce qu'on peut être prêt psychologiquement à affronter ce genre d'épreuve?
Je sais pas si on peut être prêt psychologiquement, mais en tout cas, si on sait pourquoi on se bat. C'est ça en fait. Si on sait pourquoi on se bat, si on sait pourquoi on fait tout ça, alors le switch on le fait naturellement. Moi, dans ma tête, j'avais mes proches, j'avais ma famille, j'avais mon pays, j'avais mes otages. Je dis pas les otages, j'avais mes otages qui étaient emprisonnés dans les geôles du Hamas. Et donc pour moi, c'était évident. Je me suis pas dit mon mental, ma psychologie, mon esprit. Vous savez, moi, c'était purement.
Et pas d'état d'âme.
Pas d'état d'âme, c'était vraiment, j'ai une mission, j'ai un devoir, il faut que je le fasse, il faut que je donne mon maximum, et voilà, j'avais pas de, vous savez, au début, le 7 octobre, oui, on était très touché par ce qui se passait, mais quelques jours après, on s'est déjà, moi personnellement, j'ai fait le switch, je me suis dit, bon, c'est la guerre maintenant, plus d'émotions, plus de ressenti, on y va, on fait la mission, on le fait très bien.
Pendant toute la durée de votre service, comment parveniez-vous à gérer votre vie de famille, vos relations avec vos proches, mais aussi votre travail, comment on dit en Israël, votre parnassa?
Alors moi, la famille, c'était pas facile, parce que j'ai aussi un frère et une sœur qui, à ce moment-là, étaient aussi sur le front. Alors, mon frère est arrivé un peu plus tard, mais maintenant, il y est, donc je pense que ça compte comme si c'était le cas. Moi, à titre personnel, je suis étudiant, donc forcément, j'ai pris du retard dans mes études. Mais les universités ont été clémentes. Elles ont permis de donner plus de temps, plus d'aide. Mais bon, vous savez, c'est pas assez, c'est jamais assez. Quand on rate les trois quarts d'un semestre, qu'est-ce qu'on peut déjà espérer? Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à atteindre ma quatrième année. Voilà. En réalité, à force de travail, parce que sinon, on n'y arrive pas. Et du côté émotionnel, par rapport à la famille, c'était pas facile. Ma mère était donc assez touchée, assez forcément avoir un fils, avoir plusieurs enfants qui se battent à Gaza, c'est pas facile, surtout quand on sait qu'il y a un vrai risque et qu'il y a beaucoup de soldats qui sont tombés dans cet endroit. Donc ma mère, il a fallu un peu la calmer, il a fallu un peu, vous savez, c'est une maman, donc on lui en veut pas, c'est
Une
normal.
mère juive,
Une
oui.
mère juive, donc on lui en veut pas, mais ça a pas été facile, surtout pour elle, je pense, et pour mes sœurs aussi. Mon père, il a un plus, vous savez. Il est plus tête sur les épaules et tout ça, un peu moins. Voilà, il me dit, mon fils, je suis fier de toi, fais ce que t'as à faire. Ma mère, c'était la même chose, mais c'était reviens-nous quand même en bonne forme, quoi.
Bonne santé.
En bonne santé.
Est-ce que vous avez reçu de l'aide de la part de l'armée durant toute cette période? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement offert par Tsahal?
Alors, il y a eu un accompagnement. Il est assez basique. En réalité, on termine donc notre période de milouine de réserve et on reçoit, allez, une semaine de ce qu'on appelle Iboud, c'est-à-dire une semaine où on est entre Makhlaka, donc entre divisions, et on parle, on ressasse nos événements. On a des psychologues qui viennent nous parler. On a des espèces de petites vacances entre guillemets avant de nous rejeter dans la vie active. Mais pour certains, pour moi, c'est personnellement, je pense que c'est assez. Mais pour certains, c'est pas assez. Je pense qu'il faut faire plus. Mais après, je comprends aussi les défis que le pays a. Il y a beaucoup de gens qui ont été atteints le 7 octobre. Et même après, je suis pas sûr qu'on puisse. On a assez de psychologues pour tout le monde. Mais oui, on va dire que l'armée m'assiste, mais dans une moindre mesure quand même. Faut pas en espérer trop.
Comment vous vous sentez aujourd'hui après 2 ans de guerre, après tout ce que vous avez vécu sur le terrain? Comment on sort de telles épreuves?
Alors, déjà, moi, que les otages soient rentrés déjà, c'est une satisfaction personnelle. Au-delà d'une satisfaction pour l'État et d'un bonheur pour les familles et pour le pays en règle générale, c'est une satisfaction personnelle pour moi. Je voulais un accomplissement dans l'armée pour laquelle je sers, un accomplissement auquel moi, on va dire, j'ai participé à titre personnel. Par exemple, vous savez, les Iraniens, le Hezbollah, moi, j'ai pas participé à ces opérations-là, donc je le voyais pas comme une victoire personnelle. Une victoire du pays, certes, mais pas personnelle. Et là, quand les otages sont revenus, j'ai enfin eu ma satisfaction. Je me suis enfin dit, voilà, mon travail acharné a porté ses fruits. Et aussi, je me suis dit, aujourd'hui, je me suis fait réflexion il y a quelques jours, je me suis dit, mais waouh, tout ce que j'ai passé quand même, est-ce que je serais capable de le repasser maintenant pour si c'est à refaire? C'est difficile à dire, mais je pense que oui.
Une toute dernière question à vous poser. On dit que le Hamas se renforce en ce moment. Certains médias laissent penser que l'organisation terroriste palestinienne pourrait reprendre ses attaques contre Tsahal. Vous qui avez été sur le terrain, j'ai une question à vous poser. Dans quel état est le Hamas aujourd'hui?
Alors, je peux vous donner une réponse plutôt actuelle parce que moi, j'ai terminé ma dernière session de réserve il y a une semaine avant de venir en Belgique. Et l'état du Hamas, bon, le Hamas est en décrépitude totale. Effectivement, ils recrutent des nouveaux membres, mais ce sont des membres qui ne sont pas formés, des membres qui ne sont pas entraînés. Plus peur, ce sont des jeunes avec un esprit de vengeance. Vous savez, ils sont très claniques en réalité dans la bande de Gaza. Ce sont des clans et ils ont cette espèce d'honneur de se dire, bon, j'ai un proche à moi qui est mort, il faut que j'aille le venger. Et ils recrutent. Ils n'ont pas de problème de recruter, mais ils ont du problème pour les armées, pour les former. Tous leurs meilleurs combattants sont morts, leurs commandants sont morts, leur infrastructure, bon, dans une grande partie est détruite. Il leur reste forcément des tunnels, et je sais qu'on aime bien toujours dire oui, mais vous avez 2 ans de guerre, il reste encore des tunnels, 2 ans de guerre, il reste encore des terroristes. Forcément, mais les meilleurs terroristes, les meilleurs tunnels et les meilleurs assets, on va parler comme ça, du Hamas ont été détruits et enterrés, ça saigne, ça fait aucun doute. Ça va prendre beaucoup de temps. S'il veut se reconstruire, ça lui prendra beaucoup de temps et en plus, je pense pas qu'on le laissera.
Un témoignage important, Alain. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Avec plaisir, merci à vous.